sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs, Mesdames, les académiciens, chers amis et collègues. Merci de votre invitation et de votre accueil. Alors, mon exposé concerne les origines anciennes des conflits interminables entre les sunnites, c'est-à-dire branche majoritaire de l'islam, à peu près 1,3 milliard de fidèles, et les chiites, branche minoritaire, à peu près 250 millions de fidèles. Conflits qui ont pris ces dernières années, comme on le sait, une tournure tragique un peu partout dans les pays de l'Orient musulman. Mon exposé comprend trois parties. Violence et écriture au début de l'islam. Deuxièmement, quelques textes étudiés. Troisièmement, la prise en compte nécessaire des sources chiites pour une meilleure compréhension de l'histoire de l'islam, surtout à ses débuts. Alors, je crois que vous avez un exemplier, vous avez le résumé de mon exposé, et puis quelques noms communs et quelques titres d'ouvrages qui, comme ils sont en arabe, donc il vous serait plus facile de suivre mon exposé en ayant cet exemplier. D'abord, violence et écriture au début de l'islam. Ces dernières années, j'ai étudié une problématique qui, malgré son évidence, ne semble pas avoir été suffisamment étudiée. L'articulation entre l'élaboration du Coran et les violences fratricides et guerres civiles qui ont marqué les premiers siècles de cette religion. Deux faits majeurs, indissolublement liés, qui auraient déterminé les évolutions historiques et spirituelles de l'islam, peut-être jusqu'à nos jours. Par ailleurs, une partie de cette étude constitue la substance de mon dernier ouvrage monographique paru en 2012 et intitulé « Le Coran silencieux et le Coran parlant, source scripturaire de l'islam entre histoire et ferveur » paru aux éditions du CNRS. Pour ce qui est des sources scripturaires, selon la tradition sunnite qui finit par être considérée comme « orthodoxe », entre guillemets, les choses se sont déroulées assez simplement. Les révélations divines, très fidèlement et intégralement recueillies par les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, furent réunis en un Coran unique par une commission de savants sous le règne du troisième calife, Osman, vous avez ces noms-là sur l'exemplier, Osman qui régna de 23 de l'Égir à 35, c'est-à-dire 644 à 656 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire moins de 30 ans après la mort du prophète Mohammed. Les recensions coraniques parallèles, jugées indignes de confiance, furent détruites et la version officielle appelée la Vulgate d'Osman, donc du nom de ce calife, fut très vite acceptée par toute la communauté des fidèles, sauf une poignée d'hérétiques. Or, la recherche critique, soumettant les sources islamiques et non islamiques de toutes sortes à l'examen historique et philologique depuis plus d'un siècle et demi, offre de l'histoire du Coran un tableau beaucoup plus complexe. Un corpus important de propos remontant à Mohammed aurait été très progressivement distingué en Coran et en Hadith, c'est-à-dire identifié respectivement comme parole de Dieu et tradition prophétique. Le Coran officiel, mis a posteriori sous le patronage de Osman, aurait en fait été établi plus tard, probablement sous le califat de l'Omeyyad Abdelmalek, qui régna de 685 à 705. Il présente en outre tous les signes d'un long travail rédactionnel effectué probablement au sein d'une équipe de scribes et de lettrés patentés. Quelques décennies seulement séparent le temps des deux califes, mais ces dizaines d'années comptent qu'en plusieurs siècles, tant entre les deux époques, les incalculables conséquences d'incessantes guerres civiles et d'immenses et fulgurantes conquêtes ont bouleversé l'histoire, la société et les mentalités des premiers musulmans. Par ailleurs, même élaborée et déclarée officielle, la Vulgate étatique mit plusieurs siècles pour être accepté par tous les musulmans. Parmi les savants et les courants opposés à l'État omeyyade, nombre de personnages importants n'auraient pas accepté l'authenticité de ce Coran ousmanien et l'auraient considéré comme une version falsifiée des révélations faites au prophète. Parmi ceux-là, les chiites formulent les critiques les plus systématiques et les plus nombreuses à l'égard de l'intégrité du Coran officiel. D'autres recensions coraniques, parfois très différentes dans leur forme et leur contenu, comme par exemple celle de Ali, cousin germain et gendre du prophète, et premier imam des chiites, et quatrième calife, ou encore les recensions des compagnons Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b continuèrent ainsi à circuler au moins jusqu'au 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 10e de l'ère commune. Quant à la violence endémique dans laquelle naquit et se développe l'islam, il suffit de rappeler quelques faits historiques qui paraissent avérés dans leurs grandes lignes. Dès après l'Hégire, les dernières années de la vie du prophète furent émaillées de nombreuses batailles, principalement contre ses principaux adversaires issus de sa propre tribu de Quraysh. Après sa mort, selon certaines rares traditions, il aurait été empoisonné, sa succession déclencha une vague de violence sur laquelle je reviendrai plus loin. Sous le premier calife, Abou Bakr, eurent lieu les sanglantes guerres d'apostasie par lesquelles il empêcha les Arabes nouvellement convertis à retourner à leur religion ancestrale après la mort de l'apôtre d'Allah. Le temps du deuxième calife Omar fut celui des guerres des grandes conquêtes arabes. Il fut tué, lui aussi, apparemment par un esclave persan. Le troisième calife Osman fut emporté par ce qui est conventionnellement appelé la première grande guerre civile entre musulmans. Le court règne du quatrième, Ali, fut une suite ininterrompue de guerres civiles. Ali aussi fut assassiné par un ancien partisan devenu son ennemi. Le règne des Omeyyades fut une longue suite d'abominables répressions et massacres de leurs adversaires, notamment les Alides, les gens de Ali, qui finiront par s'appeler les chiites. L'infernal cycle des répressions sanglantes et des rébellions armées était ainsi déclenché pour bien longtemps. Le cas le plus significatif est le massacre de Hossein, petit-fils de Mohammed et fils de Ali, ainsi que la quasi-totalité de sa famille, seulement quelques décennies après la mort du prophète. J'y reviendrai. Les Omeyyades seront eux-mêmes renversés violemment par une grande révolution armée, celle des Abbasides. Sous le califat de ces derniers, la répression violente des adversaires, surtout des chiites, de toute obédience, encore une fois, se prolongera par intermittence pendant plusieurs siècles. L'installation accompagnée de violences d'une religion, notamment lors du processus complexe de son institutionnalisation ou de son imposition au peuple qui professe d'autres croyances, n'est évidemment pas propre à l'islam. Cependant, ce qui semble spécifique à l'islam, c'est d'abord la nature de cette violence, à savoir des guerres fratricides ayant entraîné la mort d'un nombre considérable parmi ses plus importants personnages historiques, et ensuite la longévité multiséculaire des conflits. Différents volets de cette problématique, l'articulation entre les conflits historiques des débuts de l'islam et l'élaboration de ses sources scripturaires, ont été étudiés à maintes reprises par Frédéric Chevalli jusqu'à Alfred Louis de Prémard, en passant par Gauthier, Caïtani, Djaït et d'autres. Or, ces nombreuses investigations, en œuvre depuis près d'un siècle et demi, sont fondées presque exclusivement sur des sources sunnites. Le chiisme, ses sources anciennes et sa représentation de l'histoire du Coran et de l'islam, étudiés depuis seulement quelques décennies par un nombre infime de chercheurs scientifiques, sont beaucoup moins exploités et demeurent encore insuffisamment connus. J'ai cherché, quant à moi, à combler modestement cette lacune en adoptant un nouvel angle d'approche des problématiques, en examinant quelques ouvrages chiites anciens de grande importance et pourtant restés injustement méconnus dans les milieux de la recherche. Deuxième partie, les textes étudiés. D'abord, le Kitab Sulaym ibn Qais, ou le Kitab al-Sarifa, vous avez ce titre-là sur l'exemplaire. Procédons par ordre chronologique. Le premier de nos textes, c'est le livre de Sulaym, appelé aussi le livre de Sarifa, du nom de lieu de conseil qui élit Abou Bakr à la succession du prophète. Ce livre serait, selon la tradition chiite, l'œuvre de Sulaym, disciple du premier imam Ali. Le caractère pseudépigraphique de cet ouvrage est évident. On sait cependant que les strates les plus anciennes du livre constituent le plus ancien écrit chiite, voire islamique, et auraient été écrits par les proto-chiites de la ville irakienne de Koufa pendant les dernières années du règne de l'Omeyyad Hisham, c'est-à-dire vers 724-730. Très sommairement dit, le livre de Sulaym est le récit d'une conspiration longuement préparée dès avant la mort du prophète, visant à éliminer ce dernier et les membres de sa proche famille, à dénaturer sa religion afin d'accaparer le pouvoir et faire main basse sur les musulmans. Les principaux acteurs de cette conspiration diabolique ont été Abou Bakr et Omar, les deux futurs premiers califes. Ces comploteurs étaient entourés et soutenus par les anciens ennemis du prophète, écrasés à la bataille de Badr et maintenant opportunément convertis à la nouvelle religion. Il s'agissait surtout des plus puissants clans de Quraysh, notamment les Omeyyades. Ils réussirent à écarter du pouvoir avec une grande violence Ali, seul successeur légitime du prophète selon les chiites, à réprimer sa famille, surtout son épouse Fatima et ses partisans, et à constituer un puissant appareil de répression et de propagande à l'aide aussi bien de gouverneurs et de militaires que d'hommes de lettres, de juges ou encore de juristes théologiens. Ainsi, le livre de Solaïm, illustrant les opinions d'un puissant courant chiite, soutient que l'islam officiel majoritaire, mis sur pied violemment par les adversaires de Mohammed et de Ali, est une version profondément déformée de la religion mohammadienne. Selon cette vision historique du chiisme, l'islam majoritaire officiel, la religion du pouvoir califal et ses institutions, a été élaborée non pas par Mohammed, mais par ses ennemis, par les ennemis de sa famille et de ses descendants, seul guide légitime de la communauté des fidèles. Il ne s'agit donc pas de la religion de Mohammed, mais d'un véritable anti-islam imposé par la tyrannie et la tromperie. Deuxième texte, le Kitab al-Qira'at, ou At-Tanzil wa Tahrif, c'est-à-dire le livre des récitations coraniques ou le livre de la révélation et de la falsification d'Al-Sayyari, savant qui vécut au IIIe siècle de l'Égypte, 9e de l'ère commune, et semble avoir écrit son ouvrage dans la première moitié de ce siècle. Ce livre semble être la plus vieille monographie parvenue jusqu'à nous sur la délicate question de la falsification de la Vulgate haussmannienne et représente un puissant courant chiite ancien. Il appartient à un large mouvement englobant toutes sortes de tendances et de protestations contre l'imposition de la version officielle du Coran. À ce titre, il n'a cessé d'être cité par quelques-uns parmi les plus hautes autorités religieuses chiites, et ce jusqu'à l'époque moderne. Il s'agit d'un recueil de plus de 700 traditions, dont un grand nombre concerne la question de la falsification de la Vulgate officielle du Coran, et présente des variantes de lecture parfois considérables par rapport à celle-ci. Il contient ainsi plus de 250 citations coraniques censées provenir du codex de Ali et que nous ne trouvons pas dans le Coran connu de tous. Par ailleurs, selon les traditions de cet ouvrage, seule la recension coranique de Ali rapportait fidèlement le véritable texte des révélations divines faites au prophète. L'ouvrage d'Al-Sayyari contiendrait les citations de cette recension originelle. Dès leurs anciennes compilations de traditions, les chiites soutenaient que ce codex coranique de Ali a été gardé en secret par les imams descendants de ce dernier et fut emmené dans son occultation par le 12e imam, l'imam caché et le sauveur eschatologique des chiites duodécimains. Ce Coran, trois fois plus volumineux que le Coran connu de tous, ne sera révélé qu'à la fin des temps avec le retour du sauveur. Un nombre considérable de ces citations mentionne de façon explicite ou allusive aussi bien les personnages saints du chiisme que leurs adversaires, c'est-à-dire les membres de la famille prophétique, notamment Mohammed, Ali, qui est le plus fréquemment cité, Fatima et les fils de ces deux derniers, Hassan et Hussein, et les imams de leur descendance d'une part, les trois premiers califes ou encore les Omeyyades d'autre part. Le recueil de la Sayyari appartient à un vaste courant théologico-politique selon lequel une des conséquences les plus immédiates de l'usurpation du pouvoir par les adversaires du prophète et de sa famille a été la falsification du vrai Coran. Il ne pouvait en être autrement puisque ce Coran contenait explicitement ou par des allusions suffisamment claires la mention des noms des membres de la famille prophétique et de leurs ennemis. Or, ces ennemis étaient désormais au pouvoir. Ils étaient donc obligés de supprimer ces passages compromettants et d'en altérer d'autres afin de pouvoir cacher leurs méfaits et justifier leurs actions. Troisième texte, le tafsir, c'est-à-dire les commentaires coraniques d'Al-Hibari. Comme on vient de le voir, selon les premiers commentaires coraniques chiites, les principaux éléments censurés du Coran étaient surtout des noms de personnes, notamment ceux des membres de la famille du prophète et leurs ennemis. Pour les tenants de la thèse de la falsification, ces amputations de l'écriture l'auraient forcément rendu inintelligible. Que peut-on comprendre d'un texte spécialement révélé au sujet de tel ou tel personnage si on y enlève les noms de ces derniers? Et puis, quand on enlève des éléments aussi essentiels, on déstructure complètement le texte qui doit être réécrit au moins par endroits. C'est sans doute de cette époque, à savoir le IIIe siècle de l'Égypte, 9e de l'ère commune, ou même peut-être un peu plus tôt, que date le couple doctrinal chiite selon lequel le Coran est certes un guide, mais un guide muet, silencieux. Et parallèlement, l'imam, le guide, est un Coran, un livre parlant. À cause de la falsification, le livre de Dieu est devenu un guide silencieux. Imam Samet. Pour retrouver sa parole, il a désormais besoin de l'enseignement de vrais initiés, les imams, dont la personne ou l'enseignement sont dits être le Coran parlant, Qur'an natiq en arabe. Les deux expressions désignent donc respectivement le Coran et le Hadith, les deux sources scripturaires de l'islam, en y introduisant la problématique de l'intelligibilité de l'écriture et donc de la nécessité de l'herméneutique, de l'exégèse comme moyen de compréhension. Selon bon nombre de traditions, c'est la falsification qui a rendu le livre incompréhensible et donc rendu nécessaire son herméneutique qui a pour objectif de restituer son sens perdu. Dans le chiisme, l'imam est l'exégète par excellence et ses enseignements, ses traditions, se veulent avant tout explicitation, exégèse herméneutique ou interprétation spirituelle. Ce sont bien les imams et leurs enseignements qui donnent sa parole au Coran, rendu muet par l'altération. Avec le temps, cette thèse radicale, fondée sur celle de la falsification, cédera progressivement la place à la doctrine selon laquelle le Coran est en soi, dans sa version originelle, un texte codé et à plusieurs niveaux, et qui a par conséquent besoin de l'herméneutique de l'imam pour être compris adéquatement. Je vais y revenir. Après cette introduction, passons à notre troisième texte. Al-Hibari, mort en 286-899, aurait été chiite de tendance zaydite. Cependant, d'autres chiites n'hésitent pas à l'exploiter. Son commentaire coranique et son complément, écrit dans la seconde moitié du IIIe siècle, contiennent 100 traditions et concernent des allusions présumées ou les significations cachées du Coran concernant Ali, les membres de sa famille, ses fidèles et ses adversaires. Selon cet ouvrage, divers versets coraniques sont considérés comme des codes désignant des personnes ou des groupes historiques. Pour Al-Hibari, l'exégèse dévoile l'esprit du Coran, son sens caché, en identifiant les personnages au sujet desquels la parole a été révélée, notamment le prophète, les imams et leurs fidèles d'une part, les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les adversaires des imams et leurs partisans d'autre part. Le fondement de la foi consiste par conséquent à reconnaître les alliés de Dieu et leurs adversaires qui sont les adversaires de Dieu. D'où l'importance considérable du genre littéraire que l'on pourrait appeler les commentaires coraniques personnalisés dans le chiisme. Selon les auteurs de ces compilations, la principale falsification du Coran effectuée par les adversaires de la famille prophétique consiste en la suppression des noms des personnes du texte de la révélation, texte qui devient ainsi difficilement compréhensible. Les enseignements exégétiques des imams ont pour principale tâche de restituer ces noms, de combler les lacunes causées par la censure avec les personnes historiques au sujet desquelles les versets ont été révélés. Ainsi, ces versets redeviennent parfaitement compréhensibles. Récapitulons. Dans cette phase, pour les chiites, la nécessité de l'exégèse ésotérique est justifiée par une évolution historique précise. Toute sa vie, le prophète a dû affronter l'adversité de ses ennemis quraïchites. Le Coran évoque très souvent ces conflits. Passés opportunément à l'islam, ces mêmes ennemis récupérèrent par complot, dès après le décès du prophète, l'autorité et le pouvoir de ce dernier, en écartant violemment du califat son seul successeur légitime, Ali. Dans ces conditions, une des premières choses à faire par le pouvoir, c'était de falsifier les passages compromettants du Coran, où étaient mentionnés nommément les amis et les ennemis de la nouvelle religion, en enlevant surtout ces noms-là. Rendu ainsi incompréhensible, le Coran exigeait une exégèse, remplaçant ces personnes dans leur contexte coranique initial, afin de faire découvrir le sens véritable des versets. Cette exégèse, réprimée et interdite par les hommes puissants du nouvel État, ne pouvait circuler que de manière secrète parmi les initiés opposant au pouvoir. Elle constituerait ainsi la forme la plus ancienne de l'exégèse ésotérique dans le chiisme. Quatrième source, le Kitab Basair al-Darajat, Tassafar al-Qummi. Au IIIe, IXe siècle, à l'époque de l'intense activité des auteurs de commentaires coraniques, se développe parallèlement un corpus de traditions d'une autre nature, de type gnostique, mystique et initiatique. Ce genre de tradition spirituelle et intellectuelle, très répandue dans tout l'Orient méditerranéen depuis l'Antiquité tardive, connaîtra une grande fortune dans bon nombre de courants de pensée de l'islam, mais il semble maintenant acquis qu'il a atteint cette religion grâce aux différentes mouvances chiites, dont certaines extrêmement anciennes. Notre quatrième et dernier texte, le livre des perceptions des degrés d'As-Safar al-Rumi, mort en 902, est sans doute pour ceux qui est la période ancienne la source chiite existante la plus importante de la transmission de ce genre de tradition gnostique. L'existence d'éléments de type mystique et ésotérique semble très ancienne dans le chiisme, mais c'est surtout à partir de la seconde moitié du IXe siècle et tout le long du suivant que se développe considérablement une littérature aussi riche que variée de nature initiatique et gnostique avec une forte composante messianique. L'essor de ce corpus, qui atteint très vite des dimensions considérables, serait dû à un double constat d'échec chez les chiites. Sur le plan historique, le chiisme est devenu minoritaire, marginalisé, persécuté souvent avec une extrême violence. À quelques rares exceptions près, on peut considérer qu'au cours des trois premiers siècles de l'islam, les adeptes des imams, les chiites, auront été définitivement vaincus par ceux de l'islam dominant que l'on finira par appeler sunnisme. Ensuite, sur le plan religieux, le chiisme est ostracisé, isolé, ses doctrines neutralisées par un immense flot ininterrompu de traditions sunnites, dans le sens où, en réaction à pratiquement chaque croyance chiite, glorifiant Ali, ses descendants et ses partisans, sont élaborées des traditions louant les adversaires de ces derniers ou bien les récupérant eux-mêmes pour les besoins de la cause. Comme dans beaucoup d'autres traditions religieuses, ce que l'on appelle l'orthodoxie a été formé en réaction aux courants plus anciens qui progressivement seront considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques. Dans ce conflit des doctrines, il s'agit en quelque sorte de la parole des sunnites bénéficiant du soutien du pouvoir politique souvent répressif contre celle des chiites, la minorité vaincue. Face à cette situation, vont prendre forme des doctrines ésotériques complexes de type gnostique développées autour d'une mystique de la figure de l'imam. Progressivement, la proclamation des droits de Ali et de ses descendants, ainsi que la dénonciation de leurs adversaires, acquiert une perspective métaphysique et cosmique. Les fidèles sont ainsi invités à atteindre la connaissance transformatrice, la sagesse salvatrice, en surmontant la tragédie de l'histoire. Dans cette religion gnostique, l'imam historique est le maître des enseignements secrets et l'imam spirituel cosmique, homme divin, le contenu ultime de ces enseignements. L'ouvrage d'As-Saffar, écrit comme le livre d'Al-Hibari dans la seconde moitié du 3e siècle, est l'illustration parfaite de cette évolution. Il s'agit d'un volumineux recueil de plus de 1800 traditions, constituant une sorte de monographie sur les divers aspects de la science initiatique des imams ou ce que le compilateur a jugé être tel. Même une lecture rapide de sa table des matières montre clairement qu'il contient en effet, adapté évidemment à l'islam chiite, pratiquement toutes les caractéristiques des doctrines gnostiques teintées de néoplatonisme de l'Antiquité tardive, telles qu'elles ont été magistralement synthétisées par Kurt Rodolphe. Vision dualiste du monde, théâtre de la lutte cosmique entre les forces du bien et du mal, c'est-à-dire les amis de Dieu, les sages initiateurs et leurs fidèles d'une part, leurs adversaires de l'autre. Doctrine des émanations de Dieu, donnant naissance à des plérums et des hypostases, création des entités préexistentielles des imams à partir de la lumière divine, mais aussi à leurs adversaires maléfiques, les entités préexistentielles des forces de l'ignorance. Vision pessimiste du monde et de l'homme, la majorité des gens sont volontairement ou involontairement du côté de l'ignorance. L'homme est un être hybride, une parcelle de lumière enfermée dans les ténèbres de la matière et qui ne peut être libérée que par la connaissance. Cette gnose salvatrice est portée et transmise par un éternel être de lumière qui s'incarne pour sauver les hommes capables de le reconnaître, le Christ pour les gnostiques, l'imam pour les chiites. Ce guide, détenteur de la connaissance, bénéficie des résultats de celle-ci, à savoir les pouvoirs thaumaturgiques. Le salut intégral se réalise dans les temps eschatologiques, lorsque toutes les parcelles de lumière emprisonnées seront libérées à travers les nombreux cycles de l'histoire. La connaissance est cachée dans le sens ésotérique des Écritures, couverte par le sens littéral. L'exégèse spirituelle est donc indispensable pour l'intelligence adéquate du Livre Saint. L'absence de sources directes aux deux premiers siècles de l'islam rend difficile l'étude de la filiation littéraire entre les mouvements gnostiques et les différentes branches du proto-chiisme et du chiisme. Cependant, de nombreuses études, dont la plus complète reste l'ouvrage monographique classique de Hans Heim, « Die islamische Gnosis, die extreme Shia und die Alawiten », ont pu montrer que des courants religieux de type gnostique, notamment ceux influencés ou restés fidèles aux adeptes de Mani, de Bardesan ou de Marcion, étaient restés actifs en terre d'islam jusqu'au 3e et 4e siècle de l'Égypte, adeptes parfois se convertissant à la nouvelle religion arabe avec tout leur bagage intellectuel et spirituel. Il est intéressant de noter que les régions de prédilection de ces mouvements étaient presque toutes situées en Irak, surtout les cités de Koufa, de Basra et de Hira, c'est-à-dire la terre natale du chiisme. On peut désormais raisonnablement déduire que les enseignements de type gnostique, se transmettant surtout de manière initiatique, c'est-à-dire principalement orale, avaient cours dès l'imamat des imams Muhammad al-Baqir et son fils Ja'far al-Sadr, c'est-à-dire aux confins des 1er et 2e siècles de l'Égypte, 7e et 8e de l'ère commune. Notre quatrième source semble indiquer que la transmission écrite et méthodique de ces enseignements s'est surtout développée à partir de la seconde moitié du 3e siècle. La séquence de la perception chiite des choses, schématisée à l'extrême, serait donc la suivante. À la mort du prophète, ses adversaires écartent Ali, son seul successeur légitime, et prennent le pouvoir. Ils élaborent avec perfidie une religion anti-mohammadienne, c'est le sujet du livre de Soleim, soutenue par une version falsifiée du Coran, c'est l'ouvrage, deuxième ouvrage, As-Sayyari, qu'il présente comme étant l'islam officiel. Persécutés, les imams chiites tentent par une œuvre herméneutique de sauver la véritable religion de Mohammed en initiant une minorité de fidèles au véritable contenu de la révélation coranique. Confrontés à la réaction violente de leurs puissants adversaires, les guides passent à une dimension métaphysique et mystique dans leurs revendications en élaborant une religion de l'imam largement teintée de gnose et de néoplatonisme. C'est le sujet de notre quatrième texte. Troisième et dernière partie, prise en compte nécessaire des sources chiites. Considérant la version officielle du Coran comme étant altérée et falsifiée, était loin d'être limitée aux chiites. Des personnages hautement respectés par les sunnites partageaient avec des variantes les mêmes opinions, et celles-ci sont relatées par certaines sources sunnites aussi. Contentons-nous des exemples d'Ibn Mas'ud, selon lequel la première et les deux dernières sourates du Coran n'auraient pas fait partie du Coran et auraient été des prières récitées par le prophète. Ou encore les deux courtes sourates Al-Khal et Al-Haft, qui auraient fait partie du codex d'Obaï et qui finalement n'ont pas été retenues dans la Vulgate officielle. Pour toutes ces raisons, cette version officielle, probablement établie à la fin du 1er siècle sous le califat de Abdelmalek, semble avoir mis plusieurs siècles pour être imposée à tous les musulmans. La recherche historio-philologique sur le texte de l'histoire et l'histoire de la rédaction du Coran a pu établir de son côté qu'effectivement le texte définitif du Coran que l'on connaît serait fort probablement le résultat d'un complexe travail rédactionnel collectif. Selon des études de plus en plus nombreuses, l'établissement de cette vulgate daterait du califat de l'Omeyyade Abdelmalek, donc 65 à 86 de l'Égypte, et aurait été effectuée sous son contrôle. Cependant, jusqu'au 3e et 4e siècle, d'autres recensions coraniques, parfois très différentes dans leur forme et leur contenu, circulaient, elles aussi, sur les terres d'islam, jusqu'à ce que le Coran califal fût imposé à tous, y compris à la majorité des chiites. À cette époque, avec l'établissement de l'orthodoxie sunnite sous le califat abbasside, dont un des dogmes principaux a été le caractère divin et éternel du Coran officiel, il devenait extrêmement périlleux de mettre en doute l'intégrité de celui-ci. Seule une minorité parmi les chiites continua à soutenir discrètement la thèse de la falsification, et ce, jusqu'à notre époque. Juste après la mort du prophète, les Arabes, d'habiles commerçants, étaient devenus de grands conquérants, disposant au bout de quelques courtes années des pouvoirs et des fortunes absolument gigantesques. Parmi ces richissimes hommes de pouvoir, quelques-uns semblent avoir réuni en leur personne plusieurs éléments déterminants pour ce qui est les guerres civiles, ainsi que la problématique de la recension définitive du Coran. Synthétisant les travaux antérieurs et continuant leur méthode, notamment ceux de Paul Casanova et Alphonse Mingana, le regretté Alfred-Louis de Prémard, dans les fondations de l'islam, dégage plus particulièrement les portraits de trois personnalités de premier ordre. D'abord, Obaidallah ibn Ziyad, vous avez ces noms-là en bas de l'exemplier, célèbre et cruel gouverneur omeyyade de l'Irak, petit-fils par adoption d'Abu Soufiane, appartenant donc à la puissante famille des Omeyyades, il était un de ces riches commerçants devenus un influent conquérant. Après la conquête de la Transoxiane, il occupa le poste stratégique du gouverneur d'Irak sous les califats de Moawiyah et de Yazid. Or, Ibn Dawood écrit dans son Kitab al-Masahif que ce gouverneur, Ubaydullah ibn Ziyad, était intervenu dans l'établissement du texte coranique. Il avait notamment chargé son secrétaire, Yazid ibn Hormoz, d'y apporter de nombreuses suppressions et additions. Le deuxième personnage est encore un gouverneur de l'Irak omeyyade, le nom moins célèbre Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il devint gouverneur sous le règne d'Abdelmalek. Ce fut à cette époque que se manifestèrent les premiers courants de réflexion dogmatique après les conquêtes, courants tous profondément concernés par le problème de légitimité politico-religieuse. Durant cette période d'incessante guerre civile, l'enjeu des textes scripturaires aurait pris une importance capitale. Al-Hajjaj fut le vainqueur du calife rival Ibn Zubayr qui se trouvait à la Mecque. Ainsi, après plus de 10 ans, le pouvoir califal retrouvait son unité. Al-Hajjaj était lui aussi homme de lettres, un des grands connaisseurs de la langue arabe. Selon de nombreuses sources, il avait eu lui aussi des interventions massives sur le texte coranique et avait établi sa propre recension coranique dont il aurait envoyé un exemplaire dans chacune des capitales des grandes provinces de l'Empire islamique pour l'officialiser aux dépens des recensions antérieures qu'il fit d'ailleurs détruire en Irak. Le troisième personnage est le calife Abdelmalek lui-même. L'enquête historiographique de Prémard, tout comme avant lui l'étude de Hotting sur l'histoire omeyyade ou celle de Yehuda Nevo sur les inscriptions de l'époque, montre que le temps de Abdelmalek aurait été décisif dans l'élaboration de l'islam institutionnel et doctrinal. En ce qui concerne la constitution définitive du texte coranique, de plus en plus d'études tendent à accepter le rôle capital de ce calife dans l'élaboration de ce qui est appelé la Vulgate officielle. Ce que ne relève pas de Prémar, ni d'ailleurs personne d'autre, c'est que ces trois personnages de premier ordre d'importance, aussi bien dans les guerres civiles entre musulmans que dans l'histoire de l'élaboration du Coran, partagent entre eux un trait commun remarquable, leur haine implacable envers les chiites et leur grande violence à leur égard. Obeidallah ibn Ziyad est même connu pour avoir écrasé férocement les révoltes anti-Omeyyades, surtout chiites, et pour avoir notamment massacré l'imam Hussein, fils de Ali et petit-fils du prophète, et la quasi-totalité de sa famille à Karbala. Ce trait commun rend encore plus plausible les déclarations chiites selon lesquelles le Coran officiel est une version censurée et falsifiée de la révélation, où les noms des amis et des ennemis du prophète ont été supprimés, car ce Coran est tout simplement l'œuvre des ennemis du prophète. L'islam primitif doit en outre à Abdelmalek quelques décisions capitales. D'abord, l'arabisation de la langue de l'administration, jusque-là assurée par les anciens fonctionnaires byzantins et ou iraniens dans leurs langues respectives. Deuxièmement, l'officialisation du statut des protégés, des immis, juifs, chrétiens et zoroastriens, avec l'application de l'impôt de capitation, jizya, comme marque de leur sujétion au pouvoir islamique et leur donnant le droit d'être protégés par celui-ci. Enfin, la création d'une monnaie islamique propre, sans représentation figurée et frappée uniquement de formules religieuses en arabe. Dans ce contexte, qui est celui de la fondation de l'islam en tant que religion de l'Empire, le calife et d'autres hommes de pouvoir qui l'entouraient ne pouvaient pas ne pas être attentifs à cet aspect fondamental du pouvoir qui est la maîtrise des croyances et le fait que celle-ci ne peut être effective qu'à travers la maîtrise et donc la codification des écritures, surtout dans une société où les mouvements politico-religieux dissidents sont très nombreux. Un livre scripturaire unique, indépendant des écritures antérieures, en l'occurrence celles des juifs et des chrétiens, codifié selon les dogmes étatiques, est la meilleure garantie de la sécurité doctrinale et donc politique. Il est intéressant de noter que la seconde source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith, semble lui aussi avoir commencé à prendre son caractère systématique à partir de l'époque de Abdelmalek. Ainsi, l'initiative de constitution d'un codex coranique officiel, commencé peut-être sous le califat de Osman, semble avoir trouvé son achèvement pendant le règne de Abdelmalek. Entre-temps, avec les conquêtes et la volonté des dirigeants musulmans de distinguer clairement leur religion du judaïsme et du christianisme, un progressif travail rédactionnel avec composition, réécriture, stylisation, élaboration, rectification aurait eu lieu. La tradition islamique, dans son immense majorité, insiste sur la très grande ancienneté de la mise en place de la version officielle du Coran, initiative commencée dès Abou Bakr Omar et finalisée par Osman. Puisqu'elle sait pertinemment que plus cette mise en place est tardive, plus le risque de falsification est grand. Cependant, malgré toutes les tentatives d'occulter les divergences de la part des auteurs orthodoxes, l'examen des hésitations ou des contradictions que charrient les sources montre clairement que dès le départ, un grand mouvement de protestation prit forme contre la version officielle du Coran. En effet, dans une société où les différentes recensions auraient été des instruments de légitimation de divers groupes politico-religieux, la version officielle aurait mis plusieurs siècles pour être unanimement acceptée par tous les musulmans. Pendant près de 3 siècles et demi, plusieurs Corans, différents dans leur forme et leur contenu, auraient été en circulation sur les terres d'islam avant que la version officielle soit imposée à tous par le pouvoir califal abbasside. Il est cependant à noter que parmi les chiites, il y a toujours eu des courants plus ou moins cachés qui ont continué à croire en la thèse de la falsification de la Vulgate, et cela jusqu'à nos jours. Je termine. L'histoire des premiers siècles de l'islam et au sein de cette histoire, l'articulation entre les guerres civiles et l'élaboration du corpus coranique reste encore insuffisamment connue et présente de nombreuses zones d'ombre. C'est pourquoi de nouveaux éclairages et de nouvelles pistes de recherche dans ces domaines peuvent encore s'avérer de la plus grande utilité. L'étude des sources chiites anciennes semble de plus en plus indispensable dans cette perspective. Or, à quelques rares et récentes exceptions près, ces sources n'ont pas été exploitées comme elles le méritent. Les islamologues d'Ignaz Goldzir et de Joseph Schacht à Michael Cook, à travers des études pertinentes étalées sur plus d'un siècle, ont montré combien les sources sunnites peuvent être historiquement peu crédibles, tout au moins dans leur discours explicite, profondément orientés car cherchant à établir les preuves de l'orthodoxie et de l'orthopraxie sunnite. Dans cette dialectique opposant la religion droite à l'hétérodoxie, les sources chiites sont sans doute tout aussi orientées, mais pas nécessairement plus. Elle présente en outre l'avantage d'être la voix de la faction finalement vaincue et paraissent à ce titre d'autant plus précieuse qu'elle rapporte souvent des informations censurées ou déformées par les vainqueurs. C'est donc de l'examen comparatif et simultané des deux catégories de sources que pourraient jaillir des lueurs d'une réalité historique encore énigmatique sur plus d'un point. La négligence des écrits chiites paraît encore plus regrettable lorsque l'on s'aperçoit que sur certaines questions fondamentales touchant l'histoire de l'islam naissant et la genèse de ses sources scripturaires, ils peuvent apporter des réponses à des questions anciennes des orientalistes. Par exemple, celle concernant l'absence des contemporains du prophète dans le Coran ou sur la structure si fragmentée et si désarmante du Coran. Par ailleurs, les écrits chiites anciens sont parfois corroborés par un grand nombre de recherches modernes touchant les domaines historiques et philologiques sur des questions plus ou moins occultées ou déformées par les sources sunnites. L'existence de conflits violents entre les personnages les plus importants de l'islam naissant et leur prolongement jusqu'à la basse époque abbasside. Le caractère particulièrement problématique de l'élaboration, de la transmission et de la réception du texte coranique. La nature politique de l'élaboration d'une immense part du corpus de hadith, où chaque parti théologico-politique tentait de forger des traditions dites prophétiques, justifiant sa propre cause. Je parle de l'étude des premiers temps de l'islam et celle du contenu et de l'histoire du Coran. Mais il est tout aussi évident que les sources chiites anciennes sont également capitales pour mieux comprendre les origines de l'orage qui a depuis toujours marqué les relations entre sunnites et chiites, orage dont ces derniers ont toujours été très majoritairement victimes. Je vous remercie.
Donc je vous remercie infiniment. Je vais maintenant donner la parole aux membres de l'Académie qui souhaitent présenter des observations, vous poser des questions. L'usage est que vous répondez à ces questions ou à ces observations globalement à la fin de leur présentation. Je donne la parole tout d'abord à Mme Bastide-Bruguière.
Je vous remercie beaucoup, monsieur, de cet exposé tout à fait intéressant. J'ai trois questions à vous poser. La première concerne le rapport numérique entre sunnites et chiites. Vous nous avez donné au début une évaluation actuelle en disant 1,4 milliard de sunnites, 250 millions de chiites. Est-ce que ce rapport numérique a évolué au cours des siècles? Est-ce qu'il est allé et il est resté du même ordre de grandeur, c'est-à-dire à peu près un quart de chiites? Là-dessus, j'aimerais beaucoup savoir si on a des évaluations là-dessus, sur cette question. Ma deuxième question concerne la répartition géographique des foyers chiites. Vous nous avez cité Koufa en Irak vers le 7e siècle, mais est-ce qu'à l'origine il y a eu des foyers chiites en Arabie proprement dite? Est-ce que les foyers chiites ont émigré, migré? Comment s'est fait ce déplacement géographique? Et enfin, si je me souviens des leçons de mon maître Cahen, il associait le chiisme à certaines activités économiques dans l'islam. Où en est-on sur cette question? Est-ce qu'on associe le chiisme à certaines activités? Il y aurait au fond des docteurs de la loi guerriers et des docteurs de la loi qui seraient davantage commerçants. J'aimerais savoir où on en est sur cette question-là. Et enfin, ma dernière question concerne la conservation des sources. Comment ces sources chiites ont-elles été conservées? Où sont-elles conservées? Comment s'est faite la tradition? Et d'autre part, quelle est la langue? Est-ce qu'il y a des différences de langue entre les textes chiites très anciens dont vous vous êtes servi et la version du Coran? Est-ce que on y voit des rapports avec les découvertes récentes qui concernent les textes pré-islamiques en Arabie? J'aimerais aussi savoir où on en est sur ces questions-là.
Bien, merci de ces nombreuses et intéressantes questions. Je passe maintenant la parole à M. Dorcival.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur, merci aussi de nous avoir rappelé les origines. D'autres communications comme la vôtre ont été passionnantes, comme l'a été la vôtre, parce que précisément, elles rappellent les sources de bien des sujets actuels. Et je vais moi aussi vous interroger sur quelques définitions pour bien clarifier ma propre compréhension du sujet. D'abord, le hadith, dont vous avez cité l'existence et commenté le contenu. Donc, seconde source écrite, dites-vous. Je voudrais savoir si, par rapport au Coran, c'est une source qui s'y ajoute, qui est une sorte de commentaire du Coran, ou si c'est une source différente et éventuellement concurrente. Quel est le rôle du hadith par rapport au Coran ? Deuxième petite question, les imams. Les imams, vous avez très clairement indiqué leur lien de porte-parole du chiisme. Mais aujourd'hui, on voit des imams sunnites comme des imams chiites. Et donc, ces imams porte-parole de la parole du prophète, du Coran, hein, comment viennent-ils à paraître, en quelque sorte ? Quelle autorité ont-ils en fonction de quoi ? Et une question voisine qui est celle du calife. Calife, califat, gouverneur. Le calife, lui aussi, qui le nomme par rapport à un calife que l'on dira autoproclamé, voilà. Qui le nomme ? Et il a un pouvoir politique en même temps qu'un pouvoir religieux, ou bien cumule-t-il les deux, ce qui est la norme, je dirais, en terre d'islam ? Mais par rapport au gouverneur, quelles sont ses fonctions et ses pouvoirs ? Merci beaucoup.
Je vous remercie. Monsieur Rémy Brague.
Oui, merci Monsieur le Président et merci aussi pour ce bel exposé. Je suis vraiment très heureux de pouvoir y être. Je craignais jusqu'au dernier moment de ne pas pouvoir venir. Merci déjà d'avoir montré quelle obscurité enveloppe toute cette, non seulement tous ces textes, mais surtout toute cette histoire sur laquelle, finalement, nous ne savons pas grand-chose de précis. Vous avez parlé de la bataille de Badr. Je crois que nous ne savons même pas où ça a eu lieu. Nous ne pouvons pas... il n'y a pas de toponyme qui porte ce nom. Ou alors, c'est peut-être a peut-être été attribué très tardivement, comme on a, je ne sais pas, situé Alésia quelque part en France. Vous avez fait remarquer également que l'importance des problèmes des noms propres, ceux qui n'y sont pas étant évidemment plus importants selon la perspective chiite, puisqu'ils auraient été effacés, mais ceux qui y sont restés ne sont pas moins mystérieux, à commencer par celui de Mohammed, qui n'apparaît que 4 fois dans tout le corpus du Coran, que tel que nous le possédons actuellement, pas le Coran virtuel qui aurait été trafiqué, mais celui qui est entre nos mains, comme dit la formule islamique classique. Et nous ne savons même pas si cela désigne un personnage concret ou si ce n'est pas un titre honorifique. Titre honorifique qui aurait été porté par Aboul Qassim, personnage qui semble avoir été un autre nom de Mahomet, ou par, on ne sait pas trop par qui. Qui était Abou Lahab ? Nous ne le savons pas. Personnage qui est l'homme à la flamme, donc qui est censé être un très bon candidat pour l'enfer. Nous ne savons pas si son histoire vient d'ailleurs que de son nom, ou si inversement, il ne faut pas imaginer ce surnom à partir du sort qui lui aurait été promis. Alors je voudrais vous poser justement à ce sujet, enfin dans cette obscurité, on a annoncé récemment à son de trompe la découverte d'un codex coranique que la méthode de datation au carbone 14 aurait permis de faire remonter jusqu'à 649. Déjà un petit peu curieux qu'on puisse donner une année pour une datation au carbone 14, qui ne permet quand même que de donner une fourchette plus ou moins large. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis également vous demander quel est votre avis sur le rapport entre les deux applications principales de la notion de tahrif, donc de trafiquage, de trucage des écritures, puisque on pourrait dire avec un mauvais sourire que ici l'islam n'a que la monnaie de sa pièce, puisque l'idée suivant laquelle une écriture n'est plus digne de foi puisqu'elle a été trafiquée par ses porteurs porte avant tout sur la Bible, enfin sur ce que l'islam appelle la Torah et ce qu'il appelle l'Évangile. Au singulier, les deux textes étant supposés avoir été trafiqués, on ne sait pas trop par quel méchant, ce qui leur retire toute légitimité. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion chez les auteurs chiites ou ailleurs sur le rapport entre ces deux sortes de corruption volontaire ? Et puis enfin, peut-être une question d'ordre plus général concernant le problème même de la succession du prophète. Enfin, si le prophète est un personnage historique, enfin, si, bon, en admettant tout cela, vous avez eu, et j'ai beaucoup apprécié, le souci de mentionner le nom de l'autre Casanova, Paul Casanova, donc, qui a été professeur au Collège de France et qui expliquait beaucoup de choses par le fait que le prophète, justement, n'aurait pas désigné de successeur, d'où les bagarres consécutives. Et s'il n'a pas désigné de successeur, c'est parce qu'il était, comme beaucoup de réformateurs ou de fondateurs de religions, comme Luther par exemple, persuadés que le monde allait finir. Ce qui évidemment permettrait de donner beaucoup plus de sens aux sourates premières chronologiquement, mais dernières dans l'ordre du livre, qui sont des apocalypses, hein, qui sont des annonces de la fin du monde. Alors, ça m'intéresserait de savoir quelle est votre opinion sur cette hypothèse. Merci.
Je vous remercie et je donne maintenant la parole à M. Bertrand Collomb.
Merci, M. le Président. Merci pour votre remarquable communication. Donc, vous nous avez expliqué que, disons, la falsification du Coran était la thèse chiite fondamentale et qu'elle expliquait la nécessité de l'imam qui expliquait ce qu'il y avait, qui dévoilait les secrets. Mais une question pratique, ça veut dire qu'il y a eu des versions différentes du Coran, mais si je comprends bien, aucune ne s'est conservée comme étant une version chiite du Coran au jour actuel. Et ma deuxième question là-dessus, ça serait, vous avez parlé des suppressions de noms de personnes et qui auraient rendu certains versets du Coran incompréhensibles, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de différences théologiques, c'est-à-dire enfin les discussions chrétiennes dans les premiers siècles ont porté sur des aspects théologiques et pas simplement sur des aspects d'organisation. J'aimerais savoir s'il y a dans ces premiers siècles chiites versus sunnites des différences proprement théologiques qui différencient les deux versions. Et enfin une troisième question, alors plus actuelle, la réaction extrême contre l'Occident récemment, et notamment contre les Américains, est d'abord venu en Iran, donc dans un territoire chiite. Et puis, plus tard, c'est plutôt le sunnisme, à partir du wahhabisme, mais le sunnisme avec Al-Qaïda et le soi-disant État islamique, qui est le plus acharné contre l'Occident et contre les valeurs de l'Occident. Et on nous dit même, vous savez, finalement, en Iran, bon, d'accord, il y a une théocratie, mais c'est finalement beaucoup plus souple, c'est moins rigoureux que même le simple wahhabisme saoudien. Alors, je voulais vous demander, il y a deux façons de voir cette affaire-là, c'est soit, y a-t-il dans le chiisme ou dans le sunnisme les germes d'une opposition plus forte à l'Occident, ou est-ce que le fait qu'il y ait d'un côté des Perses, de l'autre côté des Arabes, est plus important que la distinction entre chiisme et sunnisme? Et comment vous interprétez cette séquence historique, qui est peut-être simplement d'ailleurs un hasard de l'histoire?
Je vous remercie. Jean-David Lévite.
Merci pour ce brillant exposé. Et je voudrais prolonger les dernières remarques de Bertrand Collomb en parlant de l'orage actuel entre sunnites et chiites et avoir votre sentiment sur ce sujet. Il m'a semblé, en observant l'évolution du Moyen-Orient au cours des dernières décennies, que après la Deuxième Guerre mondiale, la priorité était donnée très clairement à la construction des États, et des États sur un mode largement séculier, celui du nationalisme arabe, c'est-à-dire l'Égypte de Nasser, c'est-à-dire la Syrie du Baas syrien, c'est-à-dire l'Irak du Baas irakien, etc. Et il en allait de même du côté de l'Iran, où le Shah donnait une priorité absolue à l'émergence d'un Iran grande puissance mondiale selon son rêve. Et puis, il me semble, mais c'est là que j'aimerais avoir votre avis, que tout a changé et que l'orage est revenu en quelque sorte le 11 février 1979, c'est-à-dire avec la chute du Shah en Iran et l'arrivée de Khomeini au pouvoir, qui a ajouté à la rivalité traditionnelle entre les États, l'État perse face au monde arabe, les États arabes entre eux, la dimension religieuse chiite contre sunnite à l'intérieur même des États. Et ça a débouché sur 15 années de guerre civile au Liban, qui s'est terminée avec l'ascension de la minorité chiite qui était jusque-là négligée, opprimée, et qui a pris sa revanche et qui est aujourd'hui, avec le Hezbollah, un État dans un non-État. Et puis ça a continué avec l'Irak, avec l'invasion américaine qui, sous prétexte de démocratie, a donné le pouvoir aux chiites. Et les sunnites, comme les kurdes, n'ont pas admis cette domination absolue des chiites. Et puis aujourd'hui, c'est depuis les printemps arabes, la Syrie, où là, la majorité, la large majorité sunnite a demandé à avoir ses droits, et devant le refus de Bachar al-Assad, on est devant une guerre civile atroce. Et donc, on voit aujourd'hui dans toute cette région la remise en cause des États même, des structures des États créées en 1916 par Sykes et Picot, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, avec cet orage chiite, sunnite, et en surplomb, la rivalité entre les deux puissances religieuses qui se battent à travers la région, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc merci de vos commentaires sur cette analyse, parce que j'aimerais avoir celle de l'historien.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Non ? Alors, je vais en avoir une ou deux à mon tour, si vous permettez, qui sont des questions d'incompétence, si je puis dire. J'avais toujours compris que les musulmans considéraient l'huile de Coran comme incréée. Que ce fait qu'il était incréé, qu'il existait de toute éternité, si je ne me trompe, rendait extrêmement difficile son interprétation et son évolution et tout travail de recherche historique critique conduisant à une modification des croyances ou des interprétations. Le chiisme, vous nous avez dit que il admettait, qu'il même il exigeait une exégèse des textes, une interprétation. Est-ce que de ce point de vue-là, il n'offrirait pas des possibilités d'évolution plus grandes que le sunnisme en vue d'une intégration plus aisée de l'islam dans le monde moderne ? C'est ça ma première question. Deuxième question, vous avez dit un mot de l'eschatologie. Il y a la venue du Mahdi, n'est-ce pas, à la fin des temps, Est-ce que c'est une croyance partagée par les sunnites et par les chiites? Parce que je me souviens, par exemple, de la révolte du Mahdi au Soudan à la fin du XIXe siècle, dans un pays sunnite. Qu'est-ce qu'il en est à cet égard? Et enfin, troisième question, il y a des branches du chiisme qui ne sont pas des branches du chiisme du haut des six mains, mais des branches comme les alaouites ou les ismaéliens. Est-ce qu'ils se différencient profondément du reste du chiisme ou est-ce que ce sont des phénomènes marginaux? Voilà. Vous avez une bonne liste de questions maintenant et vous avez une bonne demi-heure pour y répondre.
Très bien, oui. Je vais essayer parce qu'effectivement, les questions sont extrêmement pertinentes et complexes. Alors, en ce qui concerne la question de Mme Bastide Bruyère, rapport numérique, vous savez, au Moyen-Âge ou même au premier temps de l'islam, nous n'avons pas vraiment des données sur les données statistiques. Et même actuellement, vous savez, les données statistiques ne sont pas tout à fait fiables, surtout dans les pays sunnites qui ont toujours voulu réduire le nombre de leur communauté chiite. Actuellement, on dit à peu près 4 cinquièmes de sunnites, 1 cinquième de chiites. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que ce dont on est sûr, c'est que les chiites, mis à part leur nombre, ont été absolument centrales au premier siècle de l'Égypte, aussi bien dans l'histoire que dans l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que les événements, enfin justement les guerres civiles dont je parlais, et puis le fait que maintenant on commence à voir les choses un peu plus clairement, un grand nombre de données dogmatiques sunnites sont des réactions, ont été élaborées comme une réaction à l'égard des données chiites qui sont plus anciennes. Ce qui montre que même s'ils ont été minoritaires, ils ont été absolument centrales dans l'histoire et l'histoire doctrinale. La répartition géographique, là aussi, ça varie selon les temps, bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'Iran est le seul pays chiite au monde, enfin, c'est-à-dire dont la religion d'État est le chiisme, depuis le XVIe siècle. Mais il y a des communautés chiites importantes, en Irak, qui sont majoritaires, au Liban, en Azerbaïdjan, à Bahreïn. Et puis, il y a des communautés chiites importantes dans d'autres pays, en Afghanistan, en Asie centrale. Et puis, il y a des chiites aussi qui ne disaient pas jusqu'à ces derniers temps leur nom. Par exemple, les Alaouites ou les Nusayri syriens, n'est-ce pas? On a découvert qu'ils sont des chiites. Les Bektachis turcs, n'est-ce pas? Qui sont quand même 10 ou 12 millions, sont en fait des chiites. Alors, ça, si vous voulez, dans le temps, ça a varié. L'Irak est la terre natale du chiisme. Alors, si au début, il y avait des chiites, enfin, des alides, on les appelait les gens de Ali à l'époque, il y en avait bien sûr à Médine, parce que le siège des imams historiques du chiisme a été très longtemps la ville de Médine, donc il y avait une communauté alide importante à Médine. Mais d'une manière générale, historiquement, pendant tout le Moyen-Âge, l'Irak et l'Iran occidental et central ont été, disons, les terres de prédilection du chiisme. Alors, activité économique, ce dont parle Cahen, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Mais au début, c'est-à-dire pour ce qui est les époques vraiment de l'islam naissant, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que les chiites, qu'on puisse les caractériser par leurs activités économiques. Je ne sais pas si c'était bien ça, votre question.
Oui. C'est ça, parce que... En réalité, en Arabie, il y avait des guerriers et il y avait des commerçants.
Oui.
Donc le problème était de savoir si c'était...
Alors, les commerçants étaient aussi bien sunnites que chiites, c'est-à-dire ce n'est pas ça qui les distinguait, ce que je veux dire. Alors, concernant les sources, c'est que, effectivement, la langue des sources, c'est l'arabe. C'est l'arabe. Les ouvrages dont je parle ici dans mon exposé sont tous en arabe. Alors, il est vrai que l'Iran, parmi les grands pays islamisés ayant une culture et une civilisation antique, l'Iran est pratiquement le seul pays qui a gardé sa langue, contrairement à la Syrie, à l'Irak, à l'Égypte, qui ont été non seulement islamisé, mais arabisé. L'Iran a gardé sa langue pour des raisons, j'ai écrit tout un article là-dessus, que l'on pourrait, je pense, même sans tomber dans l'anachronisme, de nationaliste. C'est-à-dire il y a un sentiment patriotique chez les Iraniens, on trouve ça au IIIe siècle de l'Égypte, où on parle de l'Iran comme un pays de culture et dont l'élément essentiel, c'est la langue. Enfin, il y a deux éléments essentiels, la langue persane et puis la royauté. Ce sont les deux éléments qui marquent véritablement là. Et si vous voulez, les musulmans iraniens disaient qu'il faut garder absolument ces deux éléments-là pour garder notre culture, pour être les meilleurs gardiens de l'islam, en quelque sorte. Parce que pour les Iraniens, les Arabes n'avaient pas la culture nécessaire pour être de bons musulmans. Donc il fallait avoir une certaine culture. Et pour eux, c'est véritablement, c'est-à-dire c'est le poids, la densité historique de l'Iran qui faisait de lui le meilleur gardien de l'islam. Donc à partir d'un certain moment, les lettrés iraniens vont écrire en persan, mais ça vient plus tard, c'est à partir du 3e, 4e siècle de l'Égypte, et pas ce genre de texte. Là, ce sont des textes de hadith sur lesquels je viendrai, c'est-à-dire des enseignements remontant aux imams, et ce sont des textes en arabe. Ce sont des textes en arabe. Alors, pour ce qui est des textes pré-islamiques, c'est-à-dire que effectivement, on commence à mesurer depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années, c'est assez récent, le poids des cultures juives, chrétiennes, mais également manichéennes, dans l'élaboration des textes musulmans. C'est-à-dire, le manichéisme est une religion qu'on oublie souvent, et qui a été une religion extrêmement puissante dans cette partie, dans toutes ces régions-là. Et on commence à mesurer l'importance du manichéisme dans l'élaboration de l'islam. Pour vous donner un exemple, quatre des cinq piliers, ce qu'on appelle les piliers de l'islam, on en trouve des parallèles dans le manichéisme. La profession de foi, cinq prières journalières, le jeûne d'un mois. Voyez, donc, et donc, effectivement, les textes-là sont voilà. On commence également les études sur le Coran comme texte, aboutit à la découverte des sous-textes, en quelque sorte. Des sous-textes très souvent en syriaque, c'est-à-dire des textes issus de différentes communautés chrétiennes ou judo-chrétiennes, c'est-à-dire des chrétiens mais qui ont gardé un certain nombre de croyances juives, donc, et qui avaient leur propre, bien sûr, corpus de textes saints, et qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'élaboration. Et peut-être même, bon, on commence à poser des questions, là je reviendrai à la question de Rémi Brague, quel a été véritablement, moi je pense que Mahomet est un personnage historique, il a existé, mais quelle a été sa véritable religion? Ça, c'est autre chose. Je pense que, comme je l'ai dit, le fondateur de l'islam en tant que religion institutionnelle est plutôt le calife Abdelmalek, c'est-à-dire qui a véritablement voulu que l'islam soit une religion indépendante de judaïsme et du christianisme, que ça soit la religion de l'Empire, sinon on ne prenait pas l'Empire au sérieux. Mais avant Abdelmalek, c'est-à-dire pendant les premières décennies, les choses sont beaucoup moins claires. Et si, effectivement, Mahomet se considérait comme le prophète de la fin des temps, pourquoi fonder une nouvelle religion, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ce sont des questions sur lesquelles je reviendrai. Venir aux questions de M. Dorcival, alors, hadith, et effectivement, vous savez, bon, tout ça, il y a une histoire, n'est-ce pas? Aussi bien le Coran que le hadith ont une histoire. Au début, je pense que le Coran et le hadith font partie d'un même corpus, c'est-à-dire les paroles prononcées par le prophète Mohammed, soit de la part de Dieu, soit de lui-même, n'est-ce pas? Et que peu à peu, on a distingué les deux choses pour en faire le Coran et le hadith. Mais les choses restent assez confuses, et la preuve, c'est un autre corpus qui a toujours posé problème aussi bien aux lettrés musulmans qu'au maintenant aux orientalistes, c'est ce qu'on appelle les traditions sacrées, le hadith qudsi. C'est-à-dire, ce sont des paroles de Dieu, donc rapportées par le prophète Mohammed, mais qu'on ne trouve pas dans le Coran. Alors, on se dit, mais pourquoi? Si c'est Dieu qui parle, pourquoi on ne les a pas intégrées au Coran? N'est-ce pas? Donc, Ils ont toujours posé problème, ces hadiths-là. Alors, autre chose, c'est qu'effectivement, les sunnites et les chiites ont des définitions différentes de hadiths. Comme ils ont des définitions... Je parle des premiers temps de l'islam. Hein. Bon, ensuite, les choses s'uniformisent un petit peu. Pas en ce qui concerne le hadith. Donc, on l'a vu, pour les chiites et les sunnites, le Coran, on ne désigne pas la même chose en parlant du Coran. Pour les premiers chiites, le Coran, c'est le Coran de Ali, le codex de Ali, trois fois plus volumineux que le Coran que l'on connaît. Et le Coran officiel, donc reconnu par les sunnites, c'est une version falsifiée du Coran. Le hadith, c'est la même chose. Pour les sunnites, ce sont les traditions attribuées aux prophètes et à quelques-uns parmi ses compagnons. Pour les chiites, ce sont des traditions, ce que les chiites appellent hadith, les traditions attribuées aux prophètes, à sa fille Fatima, à Ali et aux descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire les imams. Donc, c'est ça qu'on appelle le corpus de hadith. Donc, la définition est différente. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont communes entre les deux, mais je dirais très peu. Très peu. Alors, le terme d'imam, vous savez, a un sens tout à fait différent dans le chiisme que dans le sunnisme. L'imam est un titre sacro-saint dans le chiisme, c'est-à-dire, moi je l'ai toujours dit, le chiisme est la religion de l'imam comme le christianisme est la religion de Christ. C'est-à-dire, le chiisme est une imamologie. L'imam est une figure divine, c'est la théophanie divine, l'imam, n'est-ce pas? C'est un être terrestre, mais qui manifeste en son être des noms et des attributs de Dieu. Donc, c'est absolument central. C'est-à-dire que dans le chiisme, toutes les disciplines religieuses prennent sens par rapport à l'imamologie. La philosophie, l'eschatologie, la cosmologie, le droit, etc. Donc, la figure de l'imam est véritablement au centre de la religion chiite. Ce n'est absolument pas le cas dans le sunnisme, où le terme imam a un sens tout à fait banal de n'importe quel savant religieux, celui qui dirige la prière collective, etc. Donc, les choses sont extrêmement différentes. Le calife, ça aussi c'est une grande question, c'est que, vous savez, pendant les premiers temps de l'islam, là aussi, le titre que devait porter l'autorité religieuse suprême. Il y a eu là aussi, même dans, si on met de côté les divergences entre sunnites et chiites, quel titre devait porter le successeur du prophète ? Alors, Patricia Crone a écrit tout un livre là-dessus, n'est-ce pas, avec Heinz, God's Caliph. Il paraît que, vous savez, c'est une période extrêmement, extrêmement obscure, hein, c'est-à-dire tout ce que je dis, c'est il faut le mettre au conditionnel avec beaucoup de points d'interrogation partout. Mais apparemment, il y avait un conflit entre ceux qui considéraient que le successeur du prophète devait porter le titre de Khalifatullah, c'est-à-dire le calife de Dieu. N'est-ce pas? Pour d'autres, il devait porter le titre de Khalifat Rasulallah, c'est-à-dire le calife de l'envoyé de Dieu. Et si vous voulez, ce qui distinguait les deux, c'est que pour les premiers, c'est-à-dire pour les adeptes du calife de Dieu, en quelque sorte, on marginalisait un petit peu la figure du prophète. N'est-ce pas? Donc, ce qui comptait, c'était l'autorité politique plus que l'autorité religieuse. Et pour ceux qui étaient plutôt pour le titre de calife de l'envoyé de Dieu, la dimension religieuse est primée, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu des divergences entre les deux. Alors, dans ce conflit, les chiites se mettent complètement dans les marges, c'est-à-dire pour eux, de toute manière, le titre calife est le symbole de l'usurpation. C'est-à-dire que l'autorité religieuse dans le chiisme ne porte absolument jamais le titre de calife. Il porte le titre d'imam, justement. Et que pour les chiites, le titre de calife, quel qu'il soit, désigne un usurpateur. Et ça, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, ça rejoint un peu les doctrines eschatologiques, c'est-à-dire que après la période historique des imams, enfin pour les chiites du Haut-Décimat, donc l'imam caché, maintenant, bon, le seul souverain juste, c'est celui qui est à venir. Le monde est dirigé par des injustes, quels qu'ils soient, même chiites. C'est-à-dire, si on reste tout à fait fidèle au texte chiite, c'est ça. Donc, La justice, c'est ce qui est à venir, n'est-ce pas ? Le monde est régi par l'injustice, et en particulier par celui qui est appelé un calife. Alors, pour répondre aux questions de Rémi Brague, effectivement, vous avez totalement raison, c'est-à-dire que nous avons affaire à une période extrêmement mal connue, et je dirais pour cause. Peut-être à cause de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'histoire, la biographie du prophète, les hadiths, etc., ont été écrits dans une ambiance de guerre civile par des gens appartenant à des factions adverses qui sont en guerre les unes contre les autres. Donc nous ne sommes absolument pas dans un contexte neutre, et donc chacun écrit selon sa propre idéologie. Alors c'est pour cette raison que, par exemple, pour ce qui est la figure de Mahomet, nous avons tout et son contraire. Absolument tout et son contraire. Nous avons des traditions qui font de lui un être d'une compassion extrême, d'une tendresse absolue à l'égard de la veuve, de l'orphelin, des femmes, etc. Nous avons des textes qui font de Mahomet un être absolument cruel, un tortionnaire, un assassin. Il n'y a pas d'autre mot. Un assassin. N'est-ce pas ? Et donc... Les choses les plus, je dirais, basiques de la vie du prophète, on n'a pas encore des données sûres. La date de naissance, la date de l'égir, la date de mort, le nombre des enfants, le nombre des femmes, tout ça, nous avons des données extrêmement contradictoires. Nous ne savons pas combien d'enfants il a eu. Pas exactement. Donc, c'est-à-dire que nous avons affaire effectivement à un personnage, je suis tout à fait d'accord avec un titre d'un vieil article de Jacqueline Chabi, « La biographie impossible de Mahomet ». Je pense que faire une biographie historique, avoir la figure historique de Mahomet, est à jamais perdu. Jamais, à jamais. Nous pouvons faire une histoire des représentations de Mahomet, oui. Là, oui. Mais, alors, son nom, oui, bien sûr. Alors, c'est son nom... C'est très curieux qu'aucun contemporain ne s'appelle comme ça. Vous savez ? Et d'ailleurs, aucun contemporain ne s'appelle Ali non plus. Alors, d'où vient le titre de Mohammed en arabe ? Là aussi, bon, bien sûr, au conditionnel, et là, ce sont des hypothèses, peut-être ça vient de la traduction syriaque du terme grec « paraklitos », le paraclé. Mal lu, c'est-à-dire périclitos, le loué, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Donc, Mohammed, ça veut dire le loué, n'est-ce pas ? Digne de louange, et traduit en syriaque par le terme syriaque de Menhamenna. Menhamenna, qui veut dire, effectivement, quelque chose comme l'avocat ou le consolateur, ou défenseur, quelque chose comme ça. Alors peut-être le nom de Mohammed vient du syriaque Menhamenna. Donc arabisé, bien sûr, puisque à partir d'un certain moment, le pouvoir califal qui dirige l'Empire veut absolument occulter ce passé peut-être probable, enfin, qui liait Mahomet à des communautés judo-chrétiennes, y compris son nom, n'est-ce pas ? Et donc, le pouvoir califal va arabiser tout, y compris le nom de Mohammed, y compris le nom de Coran. Coran, n'est-ce pas, qui, on le sait maintenant, vient du syriaque Kriana. Kriana, ça veut dire lectionnaire. C'est un mot syriaque, arabisé sous forme de Coran. Alors, le codex, le Coran de Sana'a, je pense que de ça vous vouliez parler, les fragments coraniques qu'on a trouvés il y a une trentaine d'années dans la grande mosquée de Sana'a au Yémen. Alors, la datation carbone 14 n'est pas fiable, ça on le sait maintenant. Effectivement, dans les années 80, ça a fait grand bruit en disant, voilà, on a trouvé finalement le Coran originel qui date des années 20-30, etc. Et depuis une dizaine, 5-6 années, on a fait on a mis en question cette datation carbone 14, et maintenant on sait maintenant qu'il y a une marge de entre 60 et 100 ans, n'est-ce pas ? Donc ce qui change tout, effectivement, c'est-à-dire que la marge haute nous ramène à pratiquement 80 ans avant la naissance de Mahomet. Donc ça n'a aucune crédibilité. En tout cas, si vous voulez, bon, ce codex est important. En tout cas, c'est un Coran ancien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il présente des divergences, surtout dans la répartition des versets, des sourates, par rapport à la version officielle. En ce qui concerne le mot tahrif, c'est-à-dire la falsification que le Coran est effectivement... Le Coran reproche aux juifs, aux chrétiens, d'avoir falsifié leurs propres écritures, et donc il les appelle à rejoindre l'islam, que le Coran probablement a hérité, je dirais, des adversaires historiques du christianisme comme Cels et d'autres, n'est-ce pas, qui justement reprochaient aux chrétiens d'avoir des écritures falsifiées dans l'Antiquité tardive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement les chiites accuse les sunnites d'avoir falsifié le Coran lui-même. Et vous le savez peut-être, il y a un hadith célèbre attribué au prophète qui dit que tout ce qu'ont connu les juifs et les chrétiens, les musulmans le connaîtront aussi. Et donc les chiites s'appuient sur ce hadith pour dire que, effectivement, les écrits juifs et chrétiens ont été falsifiés, et d'après ce hadith, le Coran est falsifié aussi. N'est-ce pas ? C'est le fameux hadith des Banu Israël et des Nasrani, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la destinée des musulmans est identique à la destinée des juifs et des chrétiens. Alors, pour revenir aux vieilles thèses de Casanova, qui, selon lequel donc Mahomet, effectivement, était le prophète de la fin des temps, et cette thèse trouve des attestations massive dans le Coran, c'est-à-dire le Coran parle très souvent de la fin imminente des temps, et pas une ou deux ou trois fois, mais je dirais les 30 dernières sourates du Coran ne parlent que de ça. C'est-à-dire, on a l'impression, en lisant ces sourates-là, que la fin des temps est vraiment pour le... Et nous avons un très grand nombre de hadiths, là aussi, où le prophète se dit être l'envoyé de la fin des temps. Alors, la question de sa succession, effectivement, se pose. Moi, je pense, enfin, dans un article qui vient de paraître dans la revue des sciences philosophiques et théologiques, j'émets une sorte d'hypothèse, mais qui trouve beaucoup d'attestations textuelles. Si on opte pour cette solution-là, et effectivement, le prophète, je pense, appartenait à des courants judéo-chrétiens, lesquels, on ne le sait pas, mais probablement des courants judéo-chrétiens dites hérétiques, c'est-à-dire qui n'appartenaient pas à la grande Église. Alors, il s'agissait peut-être de Nestoriens, de Manichéens, d'El-Kassaït, enfin, ou des restes de ces mouvements-là réfugiés en Arabie. Donc, s'il appartenait à des mouvements judéo-chrétiens et s'il annonçait la fin des temps, il y a une figure qui brille par son absence dans le Coran, c'est la figure du Messie. Comment peut-on imaginer qu'un tel personnage ait ne pas avoir parlé de Messie, de l'arrivée de Messie, de la parousie, n'est-ce pas ? Effectivement, Casanova dit, il est certain que le Coran parlait du Messie, mais que son nom a été supprimé par la suite. Et je pense que, en tout cas, nous avons un très grand nombre de données textuelles dans les textes chiites anciens, où, justement, le prophète se présente comme le paraclet, dans le sens de l'annonciateur de la fin des temps, et le Messie est Ali. Est Ali. Et, en tout cas, pour les proto-chiites, pour les tout premiers chiites, nous avons un très grand nombre de textes où Ali se dit « Je suis le Jésus de ce temps », ou le Messie, soit les deux, hein, soit Issa, soit Al-Masih, le Messie, c'est-à-dire loin, loin. Alors, le problème, c'est que comme pour d'autres religions, c'est que quand la fin n'arrive pas, n'est-ce pas ? Donc, le prophète et son Messie meurent, et donc, ceux qui restent doivent réécrire l'histoire, n'est-ce pas ? Ou réinterpréter les données anciennes. Et je pense que toutes les questions de succession, peut-être la figure de l'imam dans le chiite, sont en quelque sorte les vestiges de cette figure de Messie de Ali qui s'atténue pour arriver à une figure théophanique. Il n'est plus le Messie, n'est-ce pas, de la fin des temps, mais simplement le lieu de manifestation de Dieu. Alors, monsieur Collomb, bon, il me reste peu de temps. Alors, version chiite du Coran, non, nous n'avons pas un manuscrit ancien du Coran chiite, mais nous avons un grand nombre de citations, n'est-ce pas, coraniques. Donc, je parlais de le deuxième texte dont je parle ici, le de Sayyari, dont j'ai eu la joie d'éditer le texte arabe avec mon ami de Jérusalem, Ethan Kohlberg. Donc, c'est un texte qui comporte plus de 200 citations coraniques que l'on ne trouve pas dans le Coran que l'on connaît. Bon, c'est la monographie la plus importante de ce point de vue-là, mais il y a d'autres textes chiites qui comportent d'autres citations coraniques. Mais nous n'avons pas, comme c'est le cas dans le cas des manuscrits coraniques sunnites, nous n'avons pas un manuscrit chiite du Coran.
Culte, les chiites utilisent le même Coran
Depuis le Xe siècle, oui, c'est-à-dire depuis le Xe siècle, si vous voulez, et l'établissement de l'orthodoxie sunnite de manière violente, les chiites ont accepté la thèse sunnite concernant le Coran. Alors, différence théologique, bon, très, très rapidement dit, vous êtes donc, effectivement, j'ai parlé des suppressions des noms, mais quelles sont les différences théologiques ? À partir des noms, les divergences théologiques sont extrêmement importantes. Pour dire en un mot, puisqu'il nous reste très peu de temps, c'est que le sunnisme, si vous voulez, peut être considéré comme une religion de livres, comme la religion du Coran. Et le Coran, enfin, le sunnisme considère que le Coran est véritablement la colonne vertébrale du sunnisme. Le chiisme ne peut pas être considéré comme une religion des livres. C'est la religion de l'imam, c'est-à-dire de la parole, en quelque sorte, perdue du livre. C'est pour ça que, si vous voulez, le parallélisme avec le christianisme me paraît valable. C'est la religion du logos. C'est la religion de la parole devenue homme dans la figure de l'imam, n'est-ce pas ? Le chiisme ne peut pas se considérer comme la religion du Coran parce que le Coran, pour lui, est un guide muet. Pour ne pas dire falsifié, pour les premiers chiites, c'était le Coran falsifié, mais même si on met de côté la thèse de la falsification, le Coran est un livre incompréhensible, tel quel. Donc, il a besoin de l'herméneutique, de l'exégèse, et cette exégèse est donnée par l'imam. Donc, c'est je pense, la différence théologique, mais à partir de là, il y a l'élaboration de doctrinales extrêmement différentes de part et d'autre. Alors, l'anti-occidentalisme en Iran, oui, ça a commencé avec Khomeini, effectivement. Mais il faut savoir, je pense, que la part du chiisme dans les différentes doctrines khoméinistes est assez minime. Khoméiniste a eu une formation, d'abord, beaucoup plus, je dirais, de type communiste et socialiste dans sa jeunesse. Et puis, il a été adepte des frères musulmans égyptiens, qui étaient sunnites. Et donc, il fait tout dans ses écrits politiques pour gommer ses spécificités chiites, n'est-ce pas ? Et en tout cas, il veut prendre, il le dit et il l'écrit, il l'a dit, il veut prendre la tête de la révolution islamique mondiale, et non pas la révolution chiite, n'est-ce pas ? Alors d'ailleurs, c'est pour ça, si vous voulez, bon, là c'est un peu compliqué, mais le fait qu'il a porté le titre d'imam. Alors j'ai dit que dans le chiisme, c'est un titre sacro-saint, c'est la première fois dans l'histoire du chiisme que quelqu'un en dehors des imams historiques, c'est-à-dire les descendants historiques de Ali et de Fatima, portent le titre d'imam. C'est absolument inimaginable, je veux dire, un sacrilège dans le chiisme, et ça a suscité énormément d'émoi parmi les autres ayatollahs, etc. Mais il disait, ce titre d'imam n'a rien de chiite, c'est dans le sens sunnite du terme, c'est-à-dire l'idée religieuse. Donc il jouait sur les deux registres-là. Alors, bon, là peut-être aussi, bon, ça va rejoindre les questions de Monsieur Lévite. Je pense que, si vous voulez, La première période révolutionnaire extrêmement agitée de l'Iran passée, les choses se sont calmées un peu en Iran, et bien sûr le régime iranien reste un régime islamiste chiite, et il a en face de lui le régime, le pouvoir islamiste wahhabite, comme on l'a dit, représenté par l'Arabie saoudite et les Émirats. Alors, moi je pense que, si vous voulez, bien sûr, il s'agit toujours de l'instrumentalisation politique du religieux, mais en même temps, on peut nuancer les choses. L'islamisme chiite a quand même historiquement un passé rationaliste extrêmement puissant. C'est-à-dire, il est fondé sur ce que j'ai appelé la tradition théologico-juridique rationaliste, qui s'élabore justement après l'occultation du dernier imam, c'est-à-dire lorsque la figure du juriste théologien prend peu à peu la place de l'imam qui n'est plus là, qui est absent, n'est-ce pas, l'imam est caché, et que cette tradition-là se fonde sur la théologie scolastique rationnelle et sur la philosophie hellénistique. Alors, bien sûr, l'instrumentalisation politique du religieux est toujours là, mais il faut même quelqu'un comme Khomeini, vous savez, avant de devenir la figure révolutionnaire et politique que l'on connaît, il avait 20 ans d'enseignement où il commentait Avicenne et Aristote. Ce qui fait que, avec l'islamisme chiite, au moins, vous pouvez avoir des discussions dialectiques. Ce n'est pas le cas, je pense, avec le wahhabisme radical et le djihadisme, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion dialectique possible avec les talibans ou avec Daesh. Cela m'étonnerait. Pardon ? Oui, ce sont des sunnites extrêmement extrémistes, en quelque sorte, et djihadistes. Et cela fait partie, en quelque sorte, des doctrines de base du wahhabisme. N'est-ce pas ? Dans le wahhabisme, et là, je réponds peut-être à Monsieur Guillaume aussi, la notion d'herméneutique, le chiisme se définit dans ces textes de base comme une doctrine herméneutique pour la simple raison que les sources scripturaires sont inintelligibles sans exégèse. Alors quand vous parlez de l'herméneutique, c'est-à-dire que vous parlez, et les chiites font souvent état de ça, que le texte, et on revient au couple de saint Paul, la lettre et l'esprit, n'est-ce pas ? La lettre ne suffit pas. L'herméneutique, c'est ce qui ouvre sur l'esprit. Et c'est ce qui se passait dans le chiisme, ou par exemple chez les mystiques, même sunnites. C'est-à-dire que pour trouver l'esprit, c'est-à-dire le sens caché de la parole, de la révélation, les chiites et d'autres ont eu recours aux ressources d'autres cultures. La culture iranienne, la culture grecque, juive, chrétienne, etc. C'est-à-dire que la notion même de l'herméneutique, historiquement parlant, crée une ouverture et une curiosité vers d'autres cultures. Le wahhabisme, c'est une doctrine qui date du XVIIIe siècle, est dans ces textes même contre l'herméneutique. C'est pour ça que les wahhabites se définissent comme des littéralistes absolus. Ils disent toute la vérité se trouve dans la lettre, il n'y a pas d'esprit. Et donc, il faut appliquer le Coran à la lettre, ce qui crée une fermeture. Voilà, je pense que j'ai pris mon demi-heure. Merci beaucoup.